Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
Saint-Denis, de sugère à sugère.
Saint-Denis, une ville capitale. Une ville capitale religieuse, politique, économique, préfigurant Paris. Je ne le dirai qu'ici, mais Paris est la banlieue de Saint-Denis.
Quatre jours après le raid que des lycéens de Sugère ont mené contre leur propre établissement, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui à Grasse, le président de la République s'en est venu au pied de la basilique, reconstruite en son temps par l'abbé Sugère, ministre du roi. Non sans une certaine précipitation, il a posé la première pierre de la tour et de la flèche nord, démontée après une tornade en 1847 et que depuis 25 ans, la municipalité communiste songeait à élever de nouveau. Le projet peut paraître étrange dans une ville que l'actualité médiatique tire à Hue et à Dia. Il s'agit de rapprocher par une réalisation visible, par un chantier commun, des populations composites. L'évêque ajoute, sans avoir besoin d'être plus précis, des populations de toute croyance. On a fait souvent la comparaison avec la reconstruction de l'Hermione, mais cette comparaison touche vite ses limites. Le passé de Saint-Denis est en effet autrement compliqué que celui de Rochefort. Il rassemble à lui seul toute l'histoire tourmentée de la France. Saint-Denis en est comme l'épicentre. Sous l'Ancien Régime, c'était Westminster, mais le pays s'est transformé en République. Fin 19e, c'était Manchester, mais depuis, les bases de la croissance ont changé. Au sud, la plaine Saint-Denis est devenue l'emblème de l'économie des médias et du savoir. Le lycée Sugère, superbement équipé pour l'audiovisuel, en est l'antichambre, mais il recrute aussi en partie dans la cité du Framboisin qui demeure socialement enclavée. Enfin, Saint-Denis était le symbole de la religion nationale. Les émigrations successives qui s'y sont déposées en ont fait la ville rouge, par excellence, et aujourd'hui une capitale de l'islam, mais aussi de l'évangélisme. Dans ce terrain sans cesse bouleversé, il arrive que surviennent des tremblements de terre. Le 13 novembre a commencé au Stade de France et s'est terminé dans une pauvre rue du centre, non loin de la basilique orpheline de sa flèche, et qui attend les promesses de l'avenir.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bernard Berger, bonjour.
Bonjour.
Combien d'années au compteur de Saint-Denis ?
Ah, j'ai fait plusieurs séjours à Saint-Denis. Au total, ça fait 27 ans en continu. Et je viens de revenir à Saint-Denis pour une quatrième fois, y habiter. Donc je suis dionysien plus que de cœur.
Alors on va dire, il ne faut pas le cacher quand même à nos auditeurs, que vous avez été le curé de la basilique de Saint-Denis, au moment notamment de la crise de l'occupation par les sans-papiers. De même que vous avez été curé de la cathédrale de Phnom Penh à l'arrivée des Khmers rouges.
Chaque fois qu'on emploie le mot « occupation de la basilique », je monte au créneau pour dire « non, non, ce n'était pas une occupation, elle a été prévue, annoncée, préparée, c'est un accueil. » Coordonné aussi, c'est un accueil.
Vous étiez le coordinateur de la coordination des sans-papiers.
C'est ça, voilà, avant qu'elle existe.
Et maintenant, vous faites partie des guides spirituels de la basilique, parce que c'est un monument national, il y a un architecte en chef du feu de Dieu, dites-vous, il y a une vingtaine de guides des musées nationaux.
Oui. Les choses ont énormément changé. Quand je suis arrivé à Saint-Denis en 63, c'était 64, c'était le jour de la reconstitution du vol du retable qui était devant l'hôtel principal, un magnifique tableau d'adoration des bergers. Et j'ai été reçu comme un chien dans un jeu de quilles parce que le curé de la cathédrale n'avait d'attention que pour les policiers, les chercheurs, etc. Je suis resté là 7 ans à Saint-Denis comme vicaire, chargé plutôt des jeunes, c'est vu mon âge aussi, et je ne suis jamais descendu une seule fois dans ce qui est la crypte qu'on visite aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ça se visitait pas. C'était un local où il y avait des outils de jardin, des poubelles, et puis on n'y allait pas. Je ne suis jamais descendu à la crypte, où pourtant il y avait les restes de la reine Arrigonde et bien d'autres vestiges royaux de toutes les époques. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de guide. Un peu à la fin de mon premier séjour, il y a eu un guide qui était un brave homme, père de 8 enfants, dont il s'occupait fort bien, mais il n'était pas du tout formé ni aux beaux-arts, ni à l'histoire des rois.
Mais maintenant, il y a un personnel compétent.
Maintenant, il y a un personnel, ce sont tous des licenciés en histoire, ou à peu près. Enfin, les guides ont de la valeur.
On va suivre quand même ce que pourrait être votre visite sur un air de Thibaut Évora d'abord.
Saint-Denis, ville gothique, royale et magique de tradition militante. Quelle est belle sa basilique, gardienne féerique qui protège le Stade de France. Saint-Denis, ville gothique, royale et magique de tradition militante. Quelle est belle sa basilique, gardienne et féerique qui protège le Stade de France.
Normalement, une église et une cathédrale, bien plus que n'importe quelle église, est une rencontre de la situation de l'homme qui n'est pour le moment que l'homme est souvent dans les ténèbres. Et la féerie de lumière à travers les vitraux, quand le soleil, bien sûr, le permet, donne une idée que l'homme dépasse l'homme. Et que nous n'avons pas simplement des hommes ici, les pieds sur terre, il faut les avoir, mais qu'il y a plus. Les fouilles qui ont été faites au fur et à mesure depuis des années ont fait découvrir, par exemple, quelque chose qui pouvait rester du temps des Mérovingiens. Et ici autour, on a retrouvé, tout près de la mairie, en faisant des travaux aussi, des pièces qui datent d'un nombre respectable de siècles. Mais je crois que ce qui est le plus important ici dans cette basilique, c'est la manière dont est signifié le passage de la vie à la mort, puisque tous les monuments funéraires donnent, bien sûr, une idée différente selon les époques de la mort, et surtout de ce qui se passe après la mort.
Guy de Roubaix, qui a été le deuxième évêque de Saint-Denis, parce que depuis 1966, Saint-Denis, ville de plein exercice, c'est aussi un évêché, la basilique aussi, une cathédrale. Vous, Bernard Berger, c'est pas tellement la nécropole royale sur laquelle vous attirez l'attention des visiteurs. Vous tentez de les passionner sur le cas de Saint-Denis ?
Sur l'origine en particulier. Je crois qu'il est raisonnable aujourd'hui, avec les historiens raisonnables aussi, pour dire que dès 250-260, Saint-Denis, premier missionnaire à Paris, a été inhumé à cet endroit-là. C'est raisonnable de le dire. Où a-t-il été exécuté ? Je n'en sais rien. Peut-être à Montmartre, peut-être ailleurs. De quelle manière ? Je n'en sais rien. Mais il a été amené et inhumé à Saint-Denis, certainement. Ce qui a fait que dès son inhumation, les chrétiens, à l'époque, la persécution romaine sévissait, on pouvait donc pas venir prier sur la tombe de Saint-Denis librement. Mais comme Saint-Denis était un marécage et une forêt, les chrétiens qui étaient là n'étaient pas ennuyés par les contrôles de police. Peut-être même sont-ils venus une fois ou l'autre avec des prêtres qui ont célébré sur le tombeau de Saint-Denis, sur des branches, des feuillages, l'Eucharistie. Et c'est la première église de la région parisienne. Si, 150 ans après, Sainte-Geneviève est venue et s'est intéressée à une construction un peu plus importante, si des moines se sont installés même avant Dagobert, c'est bien parce que la réputation du lieu y était. Et le père de Roubaix, qu'on entendait il y a un instant, avait bien raison de dire « ce lieu, c'est un lieu habité ». Saint-Denis, c'est pas une nécropole, c'est pas Brou, par exemple, Brou à côté de Bourg, là-bas, où il y a beaucoup de tombeaux aussi. Mais l'église est désaffectée, elle n'est plus église, elle est un lieu où le château de Dreux ou Rambouillet, je ne sais plus lequel des deux, où il y a des rois aussi. Mais c'est des lieux.
C'est plutôt
froids.
À Dreux.
Oui. Ou même, malgré ses vitraux, même la Sainte-Chapelle, qui ne sert que rarement à l'exercice du culte. Saint-Denis, c'est un lieu vivant.
Alors Saint-Denis, d'après la légende, a porté sa tête et s'en est allé à pied jusqu'à la capitale. Et ce chemin, on va marcher à grandes enjambées, si vous le voulez bien, Bernard oui. Berger, c'est celui de l'industrialisation de Saint-Denis. Parce que il y a la route qui mène à Paris, il y a le canal qui est une artère capitale, et Westminster devient Manchester. Et l'industrie pose sa griffe sur la ville au 19e.
Oui, je reviens juste un instant sur, sur le miracle de Saint-Denis. Pourtant, cette personne n'a été assez idiot dans l'histoire pour croire à cette légende comme étant une histoire vraie. Quand on dit que Saint-Denis a porté sa tête, ça veut dire que la tête est le lieu de la vie, et c'est à cela que se réfèrent les chrétiens. Pour le reste, quand un guide vient actuellement dire à des enfants d'école élémentaire « voilà ce qu'on racontait, mais c'est des bêtises », non, non. c'est pas plus bête que la légende du petit chaperon rouge. Personne n'a jamais cru que...
La présence, si je puis me permettre, devant un prêtre de l'industrie, elle est réelle.
Ah oui. Alors le fait que Paris s'arrêtait au boulevard extérieur actuel et les Parisiens ne voyaient pas bien venir les entreprises dans la ville. Mais à l'extérieur, tout était bon. Oui, les premières déchetteries, elles ont été à la porte de la chapelle. Alors, les industries, c'est pas des déchetteries. Mais elles sont créées là, en bordure de Paris. Et l'avenue Wilson étant une des rares avenues menant vers le nord, il y avait tout ce qu'il fallait pour que les industries s'installent. Et pendant de nombreuses années, pendant plus de 100 ans, Saint-Denis était une capitale industrielle importante. C'est là que les Bretons, émigrants de la Bretagne, parce qu'il n'y avait plus de travail dans les champs, sont venus, arrivant à Montparnasse, où ils étaient accueillis par le Gaz de France, avec des cars entiers qui les amenaient directement dans les cités de Pleyel.
Les Bretons que l'Église a perdus. Les Bretons qui faisaient des pardons à Saint-Denis, qui évitaient et contournaient les églises et la basilique.
Oui, le pardon de Saint-Denis, il avait lieu le dimanche de Pentecôte. Et comme par hasard, à l'heure de la messe. Mais la procession, le défilé, qui partait de la place de la Résistance et qui allait à la cour d'Ève pour pique-niquer, ne s'arrêtait jamais dans la basilique, si bien qu'on disait la messe au flonflon des bignoux bretons. Bon, mais ça a changé maintenant.
Les immigrations successives, les étrangers commencent à devenir nombreux à partir du début du XXe siècle, vont nourrir, et de manière tumultueuse, le mouvement socialiste, puis le mouvement communiste. Ça va être très compliqué, l'histoire du socialisme et du communisme à Saint-Denis, d'autant que le communisme est divisé dans les années 30. Le maire communiste de Saint-Denis, Jacques Doriot, étant passé à la dissidence puis à la collaboration. Et chez vous, on criait « Montjoie Saint-Denis » face aux socialistes et aux communistes ?
Dans une association de jeunes des patronages de France qui, depuis la guerre de 1914, avait un grand succès pour remplacer les pères décédés pendant la guerre, c'est sûr que dans ce genre de patronage très musclé, l'anticommunisme y était vivant. Je me souviens que la fanfare de ce patronage allait sous les fenêtres de la mairie jouer du tambour pour empêcher les tenues de conseils municipaux, etc. Toute cette ambiance catho-coco, c'est vraiment quelque chose qui est complètement dépassé. Le patronage en question, l'avant-garde, a fêté ses 80 ans il y a quelque temps, et le jour des 80 ans, ça s'est fait dans la salle des fêtes de la mairie, avec le maire qui chantait à tue-tête l'hymne du patronage. Enfin, c'est une période révolue.
Un signe d'ailleurs, en 1980, la mairie est plus enthousiaste pour recevoir le pape Jean-Paul II que l'église locale. Le pape se fait attendre, c'est le mois de mai, dans votre souvenir, il a plu ?
Alors, il a plu énormément. Moi, je n'y étais pas pour dire différentes raisons, mais quand Jean-Paul II parlait à des gens de Saint-Denis, il leur disait « Ah oui, Saint-Denis, la pluie, il était trempé à Saint-Denis. » Oui.
C'est drôle, moi je n'ai aucun souvenir de la pluie, mais en revanche, des longues heures d'attente
que la pluie.
L'église, j'insiste bien, l'église, pas la municipalité qui avait pavoisé aux couleurs du Vatican l'hôtel de ville, que l'église occupait en diffusant par haut-parleur des chants de Jean Ferrat sur le parvis.
Je ne chante pas pour passer le temps.
Je pense qu'on a vu à peu près tous les chants.
Saint-Denis, c'était la messe des humbles, des plus pauvres, ouvriers, immigrés, très nombreux dans ce département de la couronne parisienne. Jean-Paul II, qui est arrivé à Saint-Denis peu avant 18h, a été accueilli par l'évêque, par le préfet et aussi par la municipalité, le maire communiste Marcelin Berthelot, le député communiste aussi, Pierre Zarca. Dans la nef, 3000 personnes, dont beaucoup d'étrangers travaillant en France. À l'extérieur, vous le voyez, une foule énorme. Puis la cérémonie a commencé par un mot d'accueil de l'évêque de Saint-Denis, Monseigneur de Roubaix.
Père, vous venez ici célébrer la messe au milieu d'un peuple de travailleurs. Je voudrais vous dire, nous sommes contents que vous soyez ici.
Père, surtout pas Saint-Père, hein, c'était l'expression de Guy de Roubaix.
Et si je peux ajouter quelque chose là, Le pape était venu à Saint-Denis essentiellement pour rencontrer le milieu ouvrier, la mission ouvrière. Et après la messe et un discours sur le parvis devant 20 000 parapluies, eh bien, le pape devait aller à la salle paroissiale, Saint-Denis, à 50 mètres de là, pour y rencontrer les responsables de la mission ouvrière. Et un prêtre, qui est décédé depuis, Jean Le Fur, qui était responsable de la mission ouvrière, était à la porte pour empêcher d'entrer n'importe qui, car la salle ne supposait que 300 personnes. Et plusieurs monseigneurs italiens qui accompagnaient le pape voulaient rentrer. « Nous sommes des monseigneurs », etc. Et Jean Le Fur leur a interdit d'entrer parce qu'il n'avait rien à faire dans cette réunion. Ça avait été une des difficultés du voyage du pape.
On va passer maintenant à aujourd'hui. La situation du Parti communiste n'est plus du tout la même. La municipalité communiste, la dernière en date, a été élue de justesse devant les socialistes de M. Hanotin, directeur de campagne maintenant de Benoît Hamon, avec 9000 suffrages exprimés. 9000 suffrages exprimés dans une ville de 115 000 habitants où l'abstention est vertigineuse. Et le nombre d'étrangers qui ne sont pas inscrits, bien évidemment, sur les listes électorales, considérable.
Je crois que depuis une trentaine d'années au moins, enfin depuis Marcelin Berthelot en particulier, ou la fin même du régime de
Auguste Gillot. De démocratie Gillot. Populaire.
Oui. Je crois que les choses ont bien changé. Les communistes se sont rendus compte que finalement, dans le monde, il y avait deux genres de militants. Les militants communistes et les militants chrétiens. Et la municipalité s'est ouverte à chaque élection, depuis une trentaine d'années, à des chrétiens. Le premier en date, ça a été un homme du PSU, Regardien, etc., qui a beaucoup impressionné la mairie par sa formation politique et son ouverture. Et ensuite, il a été remplacé par d'autres. Et aujourd'hui encore, c'est une Antillaise qui est premier adjoint au maire de Saint-Denis, qui a une présence à l'église locale également très importante. L'ambiance a complètement changé. Les réunions de l'église se font aussi bien dans des locaux municipaux quand il y a le besoin. Et la mairie demande parfois l'utilisation de la salle paroissiale pour des réunions d'associations qui n'ont rien de catholique.
Le Parti communiste, notamment grâce à Patrick Braouezec, qui a été longtemps maire de Saint-Denis et qui est maintenant président de Pleine Commune, la communauté d'agglomération, l'établissement public régional qui réunit 9 communes, a aussi découvert le monde économique. Nous allons maintenant aller vers le sud de la ville, vers la plaine Saint-Denis, où on distinguait la petite colonie des républicains espagnols qui formaient la petite Espagne.
Moi, je suis pas d'accord, parce que normalement, je trouve que d'abord, on est espagnol, et après, on est de la région qu'on est. Là, c'est d'Extrémadure. Moi, c'est de Navarre. Barcelone, c'est autre chose. D'accord, chacun y dit pour sa on est né. Mais en réalité, on est tous des Espagnols. Et on doit parler l'espagnol, même que dans la famille, entre amis, on parle le catalan, on parle le basque, mais que quand on va dans des magasins ou des trucs comme ça, normalement, on doit parler l'espagnol, pas de la région. Et normalement, il y a beaucoup d'endroits. Si on demande des choses en espagnol, et on te répond en basque ou bien en catalan. C'est ça que moi ça m'énerve. Ils ne supportent pas.
Moi, c'est pareil.
Qu'est-ce que vous en pensez,
Moi, je
madame?
Dis la vérité. Hein. Même les gallegos, que les valencianos, que tout ça, hein, il faut qu'ils parlent espagnol comme nous. On parle espagnol, castellano, voilà.
Ils parlent. Nous ne comprenons pas quand ils parlent le patois de eux. Nous comprenons seulement le castellano. Parce que c'est moi, c'est le castellano seulement que je parle. Pas un autre dialecte.
Et dans la petite Espagne maintenant, de plus en plus de Cap-Verdiens qui tiennent garage, ciel ouvert, chantant à pleine voix.
Je pintava o saero do corpo, eu mudava botão de bubulusa. Eu fazia pensar em cima de um live, vou passar na minha panca com o cheu. O fangue na rixa, eu troco a voz. Vou pegar o pila, vou dedo onde pé. Vou trocar o olho, xuxa colala. Vou pôr chupa caca, pé trocar. Mãe dança, tá lá, piro na boa menina. Oh, era piro na boa menina. Está lá, piro na boa menina.
Ela pira na boa menina, eh, 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 eh. Ela pira na
Sommes à Saint-Denis, épicentre de la France, avec Bernard Berger, 27 ans, dionysien au compteur. Et nous sommes maintenant dans le sud de la ville, à la Plaine. Alors, il y a encore quelques Espagnols. Monsieur Martinez est né à la petite Espagne, le secrétaire général de la CGT. Il y a les Capverdiens, il y a des Roms, et il y a un énorme commissariat de police. Il y a les... J'élargis, hein, au-delà de Saint-Denis, à Plaine Commune et à Aubervilliers, la zone chinoise, le nouveau sentier avec ses entrepôts. Il y a le CNAM, il y a le futur campus Condorcet. Étrange chaos fractal, vous savez. La forme, c'est l'irrégularité.
Oui, alors à la Plaine, il y a une importance tout à fait capitale, c'est l'autoroute qui pendant longtemps a été une fracture de la ville en deux, la rive droite, la rive gauche. Pendant des années, on a fait des manifestations, fiançailles, le mariage des deux rives, jusqu'au moment où, grâce à la Coupe du Monde de football, l'autoroute a été couverte. Tant qu'elle n'a pas été couverte, c'était difficile d'avoir une unité dans la ville. Les quartiers étaient très différents, donc elle n'intéressait plus des Français, mais beaucoup plus d'immigrés, et en particulier, vous l'avez dit, des Capverdiens et des Sri Lankais. Ce qui faisait que dans les deux écoles, à Robespierre et l'autre école, je ne sais plus comment elle s'appelait, eh bien, les enseignants, avec un courage extraordinaire, n'arrivaient plus à se faire entendre de leurs élèves qui parlaient très mal le français. Et pendant des années, sur les deux rives de l'autoroute non couverte, les enseignants organisaient deux fois, trois fois par semaine un carnaval où les enfants déguisés sortaient dans la rue. Et du coup, les parents venaient voir leurs enfants et les enseignants avaient le lien avec les parents. Et c'est là qu'était la grosse transformation de tout ce quartier du point de vue humain, avec des immigrés qui ont été relativement bien insérés. On parle des Espagnols, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'en reste pas beaucoup. Mais c'est vrai que l'accueil a été réel du monde immigré.
Mais maintenant, les nouveaux immigrés, ce sont les gens qui viennent de Paris, qui vont travailler, ils sont des dizaines de milliers, dans les entreprises modernes de la Plaine Saint-Denis, à l'ombre du Stade de France, qui ont peur du carjacking sur la voie publique, à qui on a installé une église catholique, mais ils ont peur de sortir de leur bâtiment et de leur cantine, au cas où il leur arriverait quelque chose à Saint-Denis.
Oui, il y a un peu de cela, mais le monde qui vient travailler à Saint-Denis, c'est plus le monde ouvrier d'autrefois. C'est pas les ouvriers du gaz, ou de Jeumont, ou des chemins de fer du Nord. Ce sont tous des techniciens. Quand vous voyez toutes les grosses usines, ou SFR, ou SNCF, etc., ce sont des ingénieurs qui sont là, et qui travaillent maintenant en horaire continu. L'église dont vous parlez, qui a été créée il y a quelques années, elle a un certain intérêt pour les gens, mais moi j'y connais des ingénieurs qui disent toujours, on vient là pour travailler, entre midi et deux heures, on n'a pas deux heures à manger un casse-croûte, à s'ennuyer, à se tourner les pouces sur les bancs publics, on travaille. Donc, l'ambiance est complètement différente.
Un mot du lycée Sugère, où se sont produits des incidents depuis la rentrée, et un raid violent de dizaines d'élèves contre leur propre établissement. C'est un lycée superbe, très bien dirigé, associé d'ailleurs par convention à Radio France. Mais en même temps, la fracture territoriale y passe, parce qu'il y a des élèves de BTS audiovisuel qui peuvent venir de très loin, et puis il y a les élèves du quartier enclavé du Framboisin, et puis il y a certains élèves du Framboisin qui n'ont pu y entrer.
Oui, alors la cité du Framboisin, qui a été construite sur les bases des bidonvilles espagnoles et portugaises de 1965-66, ce quartier a toujours été un quartier difficile parce que on a construit des cités énormes, des façades très longues, des murs de Chine et des hauteurs difficiles aussi, 15, 20 étages. Et ces cités sont restées enclavées. Pour venir à Framboisin, il fallait y habiter. Les gens des cités voisines n'osaient pas y venir à Framboisin. Bon, actuellement, on a démoli quelques immeubles et il y a le projet d'une grande avenue pour couper en deux ou en trois ou autrement, couper la cité. Et cette ouverture, elle amène un autre regard, comme dans la cité voisine des 4000 de la Courneuve.
Beau papier de Marc Hatzfeld qui a fréquenté le Framboisin dans Le Monde il y a peu de jours et qui parle des jeunes des milieux populaires qui souvent sont condamnés à tourner en rond et, dit-il, sont soumis à des discours religieux de tous bords. Il faut parler de Saint-Denis comme capitale de l'évangélisme, il faut parler de Saint-Denis comme capitale de l'islam.
Oui, oui, c'est sûr qu'actuellement il y a de nombreuses églises et quelques sectes parmi elles, d'églises anglo-saxonnes plus intéressées par le profit que par le prosélytisme religieux. Il y a des églises qu'on appelait, je pense si on emploie trop encore l'expression maintenant, qu'on appelait les églises Bush. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Il y a à Saint-Denis des grosses structures qui intéressent beaucoup les populations immigrées plus que les populations locales, en particulier le monde des Antillais, des Congolais, qui se retrouvent dans des sectes très multiples. Certaines sont même mitoyennes, dans la même rue, de grosses sectes qui rassemblent tous les dimanches 1500, 2000 personnes. Bon. Quant à l'islam, alors c'est une vieille histoire. Moi, je me souviens, lors de mon premier séjour, oui, ça devait être dans les années 67-68, j'habitais en partie dans la rue de la boulangerie qui jouxte la cathédrale. Il y avait là 150 familles de maghrébins et un européen, c'était moi, je crois pas qu'il y en avait beaucoup d'autres. Toujours est-il qu'un jour, un grand-père d'une de ces familles est décédé, et je connaissais bien la famille, il tenait un café juste devant la salle Saint-Denis, surveillait ma voiture, quand j'oubliais de la fermer, il me prévenait que ma voiture était restée ouverte toute la nuit, enfin bon, il y avait une entente très cordiale. Les gamins venaient de temps en temps à la salle paroissiale faire leurs devoirs, et même une fois, un lundi de Pentecôte, comme il faisait beau et qu'on avait un J7 pour une association de jeunesse, j'ai organisé une sortie à Deauville ou à eux, je ne sais plus, Merstreport, avec les enfants du quartier, ça s'est très très bien passé. Et un jour, voilà que dans cette famille, le grand-père est décédé. Et la famille est venue me voir en disant, voilà, mon père, dit la fille, a toujours vécu à l'ombre de la basilique, il n'est pas question qu'on enterre comme un chien, on ne parlait ni de mosquée ni d'imam à l'époque, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une prière dans la basilique. Bon, moi, j'étais tout à fait d'accord avec ça, mais je me dis, faut quand même, c'est important. Je demande à l'évêque, Mgr Le Cordet, je lui dis, voilà, une famille, il me dit, pas de problème, on peut, simplement, faisons bien la différence, ne faisons pas l'amalgame. J'ai célébré un mariage musulman, donc sans tenue cléricale, et oui, c'est passé très bien. Il y avait 200 musulmans dans la basilique.
Jouons franc jeu et parlons de 2017, au bout de la rue de la République, où il y a de plus en plus de commerces, de vêtements, d'objets de mode musulmans et de livres musulmans qui appartiennent tous à la même tendance. Est-ce qu'il y a des musulmans qui refusent que leurs enfants aillent visiter la basilique, par exemple?
Certainement. Certainement. Je ne suis pas le témoin direct. J'ai été invité une fois même dans un lycée de Saint-Denis, à Paul-Éluard. Les musulmans m'y ont reçu très très bien. Mais je ne veux pas jouer les enfants de cœur non plus, parce qu'il y a des problèmes. Il ne faut pas nier les problèmes qu'il y a à Saint-Denis, ça c'est sûr. Rue de la République, c'est quand même un problème que de n'avoir que un certain style de commerce.
Merci à vous, Bernard Berger. On sait que vous avez une réputation de franc-parler. Vous l'avez parfois illustré ce midi. C'était notre petit dictionnaire amoureux de Saint-Denis avec Florent Beauvallet à la technique, Valérie Aestaray à la réalisation, Elinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard dans l'équipe de la Marche de l'Histoire. Qu'est-ce qu'il y a au programme, Mathieu Vidard, dans la tête au carré?
Oui, la science, Jean, grande absente de la campagne présidentielle, c'est le dossier.